RFI, grand reportage, Laurence Adou.
C'est une aberration géographique comme on en trouve seulement aux confins du monde. Sur l'archipel norvégien de Spitsberg, la terre habitée la plus au nord de la planète, se trouve la petite ville minière russe de Barentsburg. Peuplée de moins de 450 habitants, pour la plupart des mineurs venus des bassins de charbon d'Ukraine, Barentsburg a été fondée par les soviétiques en 1932 à la faveur d'un traité de 1920 qui donna à l'archipel norvégien un statut international. À Barentsburg aujourd'hui, on croise des Ukrainiens surtout, mais aussi des citoyens de toute l'ex-URSS qui n'ont jamais vraiment accepté la chute de l'Union soviétique et qui retrouvent ici, dans cet improbable coin de fjord sous le pôle, une petite URSS étonnamment préservée par les glaces et par la compagnie minière d'État qui contrôle désormais la ville. Barentsburg, la petite URSS du Grand Nord, grand reportage signé Camille Magnard, Camille que l'on retrouve pour en parler au chaud, en direct, dans un quart d'heure.
Notre bateau vient de toucher le quai métallique de Barentsburg. On est au pied de la ville qui s'étend en longueur au-dessus d'une petite falaise de roches sombres dans le fjord, qui est censé être le fjord de verre, comme on l'appelle ici, mais qui dans cette saison est toujours assez enneigé. On est vraiment dans une ville industrielle, minière, russe typique. La passerelle vient d'être posée sur le quai. Et nous voici donc à quai, le pied sur le sol de Barentsburg.
À partir du début de l'été, quand les neiges commencent à fondre, on ne peut plus arriver à Barentsburg que par hélicoptère ou par bateau, depuis le port norvégien de Longyearbyen, 50 km plus à l'est. Et c'est tout de suite la mine qui vous attire. En plein centre-ville, au-dessus du port encrassé par la poussière de charbon, elle est la raison d'être de cette colonie russe improbable, beaucoup plus proche du pôle Nord que du premier port russe, Mourmansk, loin là-bas, sur la mer de Barents. C'est la compagnie Arctic Ugol, propriété de l'État russe, qui exploite la mine et qui préside aux destinées des habitants de Barentsburg.
Je m'appelle Vassili Ivanovitch Zaitsev. Je suis ingénieur en chef de cette mine pour la compagnie Arctic Ugol. Je suis originaire d'Ukraine. C'est là-bas que je suis né, dans la ville de Donetsk. J'ai jamais rêvé de venir vivre ici. J'ai passé ma vie à Donetsk. J'ai fait une carrière plutôt réussie à la mine. Et si l'Union soviétique ne s'était pas effondrée, j'aurais jamais eu l'idée d'en partir. À Donetsk, après la perestroïka, il y avait bien du travail, mais pas d'argent. Les salaires n'étaient pas payés. Et quand on était payé, l'inflation était telle qu'elle dévorait toute notre paye. À cette époque, à Donetsk, il y avait une compagnie qui déjà recrutait des gens pour travailler à Barentsburg. C'était un bureau gouvernemental. Et même s'il n'y avait plus d'État soviétique, il n'a jamais cessé de fonctionner. C'était comme une tradition d'envoyer ici des mineurs de Donetsk ou Lugansk. Alors moi, je me suis présenté à ce bureau, j'ai signé un contrat et je suis arrivé ici.
En riant, Vassili dit que Barentsburg, c'est un peu l'Ukraine en miniature. Les mineurs viennent de Donetsk ou de Lugansk, les marins d'Odessa ou de Sébastopol et les chauffeurs de camions de Kiev ou de Kharkov.
Oui, à peu près 70-80% des gens ici sont des Ukrainiens. Le reste, ce sont des Russes. Ça vient du fait qu'à l'époque soviétique, on s'est aperçu que les gisements de charbon exploités sur l'archipel, à Pyramiden et ici, à Barentsburg, sont identiques à ceux du Donbass, le bassin minier de Donetsk, en Ukraine. Les conditions de travail dans la mine sont très ressemblantes. Par exemple, il y a beaucoup de gaz méthane et c'est très dangereux, comme à Donetsk. C'est pour ça qu'on fait venir des mineurs de cette région. Les conditions de travail sont les mêmes, mais le salaire, lui, il est plus élevé que sur le continent. À l'époque soviétique, on le multipliait par 1,5. Aujourd'hui, c'est difficile de comparer, mais ça reste mieux payé. On peut gagner entre 1500 et 2000 dollars par mois, alors qu'à Donetsk, les gars touchent au mieux 1000 dollars, au pire 500 dollars par mois. Alors si les gens viennent d'Ukraine travailler ici, c'est bien pour gagner plus d'argent.
Et l'argent à Barentsburg, ce n'est pas une mince affaire. Ici, rien ne se passe comme ailleurs. Et à la chute du régime soviétique, la compagnie, Arctic Ugol, a trouvé un moyen très simple pour garder le contrôle sur toute l'activité économique de la ville.
Ici, à Barentsburg, il n'y a pas de distributeur de billets. Mais tous les habitants ont des cartes de crédit Arctic Ugol. La loi norvégienne ne nous autorise pas à utiliser les roubles russes. C'est pour ça qu'on a ces cartes. Chaque habitant a un compte bancaire chez nous, Arctic ou Gold, où notre salaire est payé. Au magasin ou à la cantine, on paye avec cette carte. Et la somme est retirée de notre compte. Ailleurs, en Russie, ou même à Longyearbyen, la ville norvégienne voisine, la carte ne fonctionne pas. Seulement à Barentsburg, dans nos magasins.
On a beau chercher en se fiant aux enseignes peintes sur les bâtiments du centre-ville, on ne trouve à Barentsburg qu'un seul magasin encore ouvert. Au pied de la grande barre de béton mitée qui héberge presque tous les habitants de la ville, on repère la petite boutique à l'odeur tenace de fruits trop mûrs dans le hall de l'immeuble et au balai régulier, le soir, des gens qui ressortent avec qui une bouteille de bière, qui un plateau de frais.
Ici, vous pouvez acheter de la soupe et pratiquement tout ce qu'on trouve dans n'importe quel magasin. Des légumes, des fruits, de la viande. Tout nous arrive par bateau de Mourmansk. Et puis, on peut aussi avoir des livraisons supplémentaires, toujours par bateau, mais depuis l'Allemagne, s'il nous manque quelque chose. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a reçu un ravitaillement. On a eu un peu de tout, surtout des légumes, des fruits, du poisson, du poulet et de la viande congelée. Beaucoup de choses. Des boîtes de conserve, des cornichons et des œufs aussi. Vous voyez que tout le monde en prend des pleins seaux. C'est un produit qui se périme vite. Alors on n'en a pas souvent et ça manque beaucoup aux gens d'ici. Je m'appelle Iana, je viens d'Ukraine, de la région de Lugansk, la petite ville de Krasnovouch.
C'est une ville minière ?
Oui, il y a beaucoup de mines encore en activité là-bas. Mon mari travaillait, mon grand-père aussi, et aujourd'hui mon mari est mineur ici à Barentsburg. Nous sommes arrivés ici il y a pile un an et la compagnie nous fait des contrats pour 2 ans. Ensuite, on rentre chez nous en congé pour 2 mois et si on veut, on peut re-signer ici pour 2 années.
Et ça ne vous manque pas, l'Ukraine ?
Bien sûr que ça me manque. À la maison, il y a mon grand-père, ma grand-mère, mon frère. Heureusement, j'ai ma mère ici, avec mon père et mon mari. C'est comme ça, la vie nous balade là où ça lui chante. Et il fallait bien qu'on gagne de quoi vivre. Et l'argent, il faut aller le chercher où il se trouve. Moi, je suis coiffeuse de formation.
Il y a un salon de coiffure ici ?
Non, c'est moi qui coiffe les gens, en plus de mon travail.
Pendant que l'on discute avec Yana, la coiffeuse épicière, un client est entré et écoute la conversation avec un sourire curieux. Yana et lui se mettent à parler du pays. Elle est de Lugansk, lui de Donetsk.
La grande majorité d'entre nous vient de là-bas, Lugansk, Donetsk. Là-bas, tout a fermé, les mines, les usines. C'est écrit dans le journal. Dans la ville d'où je viens, 70% des gens n'ont pas de travail. 70%. Moi, je suis mineur depuis 34 ans déjà. Et je suis ici depuis, 6 ans. Oh, je vis ici correctement, je me suis habitué. C'est comme ma deuxième maison ici.
Les conditions de vie sont plus ou moins les mêmes que chez vous à Donetsk ?
Non, ça n'a rien à voir. Chez moi, il y a ma famille et ici, sans ma famille, je n'ai plus rien. C'est toujours comme ça, on sacrifie une chose pour en gagner une autre. Je gagne mieux ma vie ici que chez moi et je n'ai pas le choix. J'ai un fils qui est lourdement handicapé. Pour payer ses soins, je crois que je vais devoir travailler jusqu'à ma mort.
On est ici pour gagner de l'argent. Le temps viendra de retrouver nos familles. Et puis ça n'a qu'un temps. Personne n'a envie de rester longtemps à Barentsburg.
À Barentsburg, il faut bien le dire, il y a beaucoup de bâtiments abandonnés. Et donc ça fait un bon refuge pour toutes ces mouettes qui se mettent sur les corniches en bois sculptées sur le haut des fenêtres des bâtiments, de certains bâtiments en tout cas. Et je crois que ce qui fait le plus de bruit ici, c'est bien les mouettes et pas les habitants, à part bien sûr les touristes qui débarquent en groupe chaque jour dans le port, qui viennent en bateau de Longyearbyen et qui repartent 2 heures plus tard.
Au rez-de-chaussée de l'hôtel Barentsburg se trouve le seul café où l'on peut acheter de la vodka russe si l'on ne possède pas la fameuse carte Arctic ou Gold. Et en face, il y a l'hôpital, la polyclinique. On y rencontre dans son cabinet étonnamment propre et moderne le jeune dentiste de la ville. Zafar est tadjik, il est né dans les lointaines montagnes du Pamir. Sa petite fierté ici, c'est son fauteuil de consultation avec vue imprenable sur les neiges du fjord.
Ça plaît beaucoup aux patients. Ils s'installent ici et ils regardent l'horizon, le fjord. Ça leur fait du bien.
Et ça les rend plus calmes qu'ailleurs ?
De toute façon, ici, on pratique les techniques dentaires dernier cri, on soigne les dents sans douleur. rien de ce qu'on leur fait ne leur fait mal. Les gens s'habituent vite à ça. Je dirais que j'ai entre 6 et 8 patients par jour en moyenne pour des problèmes de dents. La plupart du temps, c'est lié à des carences en vitamines. On est loin du continent ici et on n'est pas souvent ravitaillé en fruits. Et quand on en reçoit, c'est une fois par an, alors ça pourrit vite. Donc ils vendent vite leur stock, on le consomme en peu de temps et après, eh bien, on doit s'en priver. Les légumes, c'est pareil, les pommes de terre, les oignons, c'est un gros problème. Ajoutez à ça l'absence de lumière pendant les 6 mois de la nuit polaire. C'est là qu'on commence à avoir des dépressions. Et puis, on est dans un espace hostile, fermé, il n'y a nulle part où aller, à part travail et à la maison. C'est vraiment ennuyeux. Il y a bien une salle de sport, mais pas grand monde s'en sert. C'est sûr qu'ici, on n'a pas les mêmes possibilités que nos voisins norvégiens.
Mais vous ne vous ennuyez pas trop ici ?
Si, bien sûr, je m'ennuie terriblement. Avec ma femme, on s'ennuie surtout de notre fils, qui a 1 an et demi et qui est resté en Russie, à Novosibirsk. Et puis, il y a tellement peu de monde ici et presque aucun moyen de divertissement. Rien d'autre à faire que s'ennuyer. Mais bon, on se contente de ce qu'il y a et on tient en se disant qu'on économise de l'argent pour réaliser des projets d'avenir.
Le grand projet de Zafar et de sa femme, ce qui les a amenés à venir travailler ici à Barentsburg, c'est l'avenir de leur fils. Ils l'ont laissé à ses grands-parents quand il n'avait que 6 mois. Et si Zafar met de l'argent de côté depuis 1 an, c'est pour lui payer la meilleure éducation possible. Et comme on ne rêve jamais à moitié, ce sera Harvard, sinon rien.
Ce qui m'a décidé à venir ici, c'est le salaire. Le décor polaire, la nature, c'était plutôt sympa au début et puis à la longue, ça commence à être dur moralement. Là, je suis fatigué de vivre ici. Mon contrat dure encore 1 an, mais je n'ai même plus envie de continuer.
Et puis parmi les étranges habitants de Barentsburg, il y a les scientifiques. Ils vivent un peu à l'écart, ce sont les seuls à ne pas dépendre de la compagnie minière. Les expéditions ne viennent jusqu'ici que les mois d'été, mais il y a toujours une petite équipe qui reste sur place toute l'année pour entretenir la base.
Salut. Ça a l'air d'être le petit déjeuner ici. On nous propose de boire le thé.
Je suis le professeur Gennadiev Tarasov, chercheur à l'Institut de biologie marine de Mourmansk, spécialisé dans la géologie marine des mers arctiques. Quand je suis venu la première fois à Barentsburg, j'étais étudiant, c'était en 1964. À l'époque, c'était le communisme, tout était gratuit. Il y avait beaucoup d'argent pour développer la ville et la science. Les gens vivaient très bien ici. Cette base scientifique de Spitzberg a été construite en 1984. La recherche scientifique ici a toujours bénéficié d'un statut privilégié et de budgets spécifiques. C'est pour ça qu'il y a encore relativement beaucoup de monde ici. Mais il y a des arrière-pensées politiques à cela aussi.
Vous pensez à des projets russes de prospection de gaz ou de pétrole dans l'archipel, par exemple ?
Il y a déjà eu beaucoup de prospections ici. On a trouvé du pétrole, mais il n'est pas exploitable pour le moment. La Norvège exploite déjà des gisements offshore en mer du Nord. Ils ont créé une technologie particulièrement efficace pour ça. Mais la Russie, pour le moment, ne veut pas se lancer là-dedans. Nous avons d'immenses ressources sur la terre ferme, dans la péninsule de Yamal ou en Sibérie, qui sont beaucoup plus accessibles et moins coûteuses. Quand ces gisements-là seront taris, alors bien sûr, la Russie s'attaquera aux gisements en mer.
Depuis la chute de l'URSS, la mine de charbon n'exporte quasiment plus de minerais. Elle produit à peine plus qu'il n'en faut pour alimenter la centrale thermique qui chauffe la ville. Barentsburg, en clair, ne vit que pour prolonger sa propre existence et la présence russe sur un archipel très stratégique pour les décennies à venir. Quand les banquises auront fondu, s'ouvrira alors une route maritime particulièrement convoitée au large de Spitzberg. Alors, professeur Tarasov, quel avenir pour Barentsburg ?
Les têtes pensantes de la politique russe disent que l'avenir de Barentsburg, ce sera ni le charbon ni le pétrole. Mais la recherche scientifique et peut-être la pêche et la transformation du poisson, mais surtout le tourisme. Depuis une dizaine d'années, on a de plus en plus de touristes, mais pas toujours pour de bonnes raisons. Dans les années 90, la ville était vraiment en mauvais état. Les immeubles s'effondraient, il y avait des tuyaux éventrés partout, de la boue, des gravats. Et les Norvégiens ont commencé à nous envoyer des touristes en leur disant « Regardez, voilà ce que c'est la Russie aujourd'hui, regardez comme ils sont pauvres et tristes ». C'était exotique pour eux. Et ils rentraient ensuite à Longyearbyen, la ville norvégienne, en se disant « c'est quand même bien mieux chez nous en Europe ». Ils faisaient exprès de photographier les choses les plus laides, les plus glauques possibles. Mais regardez aujourd'hui, ce n'est plus si terrible, non ?
Voilà donc ce qu'est devenu Barentsburg, tout à la fois petit théâtre du choc Est-Ouest, 20 ans après la chute de l'Union soviétique, mais aussi petit musée sous cloche d'une organisation sociale totalitaire et ailleurs disparue, base avancée, enfin, d'une Russie qui se projette déjà dans les batailles géostratégiques de demain et souhaite à tout prix maintenir ici sa petite URSS du Grand Nord. Barentsburg, la petite URSS du Grand Nord, un grand reportage de Camille Magnard, réalisation Marc Minatel.
Camille Magnard, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Vous parlez d'une aberration géopolitique à propos de la présence de cette ville minière russe sur l'archipel norvégien de Svalbard. Comment ça s'explique ?
Alors il faut savoir que cet archipel de Svalbard, depuis des siècles, il est visité à la fois par des peuples qui viennent de Russie, mais aussi de Scandinavie, que ce soit pour la pêche à la baleine, pour la chasse aux rennes, aux phoques ou d'autres animaux, jusqu'aux premières ruées vers l'or et au charbon au 19e siècle. Alors à l'époque, tout ce petit monde cohabitait sans vraiment de cadre juridique, mais c'est après la Première Guerre mondiale, avec le traité de Versailles, que la Norvège s'est vue attribuer la souveraineté sur l'archipel, en grande partie parce que la Russie, à ce moment-là, était juste après la révolution bolchevique, en pleine guerre civile, et donc avait d'autres chats à fouetter, n'a pas vraiment pris part aux négociations. Le temps qu'ils s'en rendent compte, les Russes ont contesté cette souveraineté norvégienne, et tout ce qu'ils ont obtenu, c'est un traité, le traité de Svalbard, qui a été signé en 1920. Il établit que Svalbard aura un statut international, que n'importe quel individu ou compagnie issue des pays signataires du traité pourra s'y installer, tout en respectant bien sûr la souveraineté norvégienne. Alors ce traité, il est toujours en vigueur aujourd'hui, et grâce à lui, les soviétiques n'ont pas hésité. Dès 1932, ils ont installé leur ville minière, cette ville de Barentsburg.
Alors Camille, vous avez intitulé votre reportage « Barentsburg, la petite URSS du Grand Nord ». C'est vraiment cette persistance du modèle soviétique qui vous a frappé sur place ?
Et c'est vrai, pourtant, ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé dans l'ex-URSS, j'ai vu beaucoup d'anciennes villes minières soviétiques, mais nulle part ailleurs qu'à Barentsburg, ou nulle part de la même manière, j'ai ressenti, c'est vrai, cette impression d'être toujours, non pas dans un décor, c'est le décor, on le retrouve un peu partout, mais vraiment dans un système qui restait très soviétique. C'est pas les fresques, les bustes de Lénine ou le délabrement ambiant qui m'ont le plus frappé, mais c'est vraiment cette manière dont vivent les gens de Barentsburg. Ils sont complètement sous le contrôle de la compagnie minière, cette compagnie qui a remplacé l'administration soviétique comme pouvoir totalitaire. Les gens n'ont plus vraiment la liberté d'utiliser leur argent, ils n'ont d'ailleurs pas vraiment de moyens de le faire sur place. Ils ne peuvent pas sortir de la ville à part une fois par mois pour aller dans la ville norvégienne à côté, et encore pas plus de 4 heures. Et puis il y a, c'est vrai, toujours des cartes de rationnement dans ce petit magasin qu'on entend dans le reportage pour les produits de première nécessité, sucre, farine, vodka aussi. Il y a aussi cet hôtel et ce restaurant qui sont réservés aux étrangers. On ne peut pas vraiment aller là où sont les habitants de la ville. Bref, pendant ces quelques jours que j'ai passé à Barentsburg, c'est vrai que j'ai eu l'impression de vivre un peu dans un cliché, vous savez, dans ces vieux reportages sur les voyages des journalistes de l'époque en URSS.
Alors si j'ai bien compris le sens de votre reportage, ce système totalitaire d'inspiration soviétique, il perdure avec la bénédiction des autorités russes.
Et c'est ça qui est frappant d'ailleurs, quand on y réfléchit, parce que c'est la Russie d'aujourd'hui, la Russie de Poutine et de Medvedev qui possède la compagnie minière Arctic Ugol, et donc qui accepte qu'on fasse perdurer là-bas ce modèle. Ça dit d'ailleurs justement que cette Russie-là, elle considère que loin des regards, le système un peu soviétique reste un moyen d'organisation de la société qui a plutôt des avantages. Et d'ailleurs, il faut le dire, ça plaît pas mal aux gens, aux anciens citoyens soviétiques qui viennent travailler à Barentsburg, qu'on entendait dans le reportage. Chez eux, tout s'est effondré, le travail, il n'y en a plus, et ils retrouvent ici ce système qui est certes très englobant, très totalitaire, mais qui est aussi assez rassurant pour eux qui ont beaucoup perdu à la chute de l'URSS.
Ça sera le mot de la fin, et pour aller plus loin sur ce sujet, je signale que vous avez réalisé sur RFI.fr à la page de grands reportages, un diaporama de photos sur cette ville de Barentsburg. Camille Magnard, merci beaucoup. Au micro, Laurent Sadoux, prenez soin de vous, chaque jour est une vie, et travaillons à la beauté des choses.